brillant chercheur universitaire, Vincent a basculé dans la drogue et l'alcool il y a une quinzaine d'années. Il en est sorti, aidé par une équipe médicale et psychosociale. Aujourd'hui, c'est en tant qu'ex-dépendant devenu père aidant que Vincent intervient dans un centre d'accueil de jour pour aider les personnes en difficulté.
Je suis parti vivre 3 ans au Canada pour faire 2 postdoctorats. Au Canada, j'ai commencé à consommer du cannabis. D'abord de manière récréative et puis de manière de plus en plus fréquente jusqu'à en consommer tous les jours. Je pense que ça induit en tout cas une grosse dépression qui a été diagnostiquée à mon retour en Belgique 3 ans après. Donc à 30 ans, pour la première fois, je vois un psychiatre qui me diagnostique une dépression clinique majeure qui en fait était le premier cycle de cycle bipolaire maniaco-dépressif. On appelle ça la bipolarité. Quand je suis rentré en Belgique, je me suis sevré du cannabis parce que je ne savais pas du tout où en trouver en Belgique. Et donc là, je suis tombé dans l'alcool. J'ai commencé à boire de manière pathologique et j'alternais en fait entre la consommation de cannabis et la consommation d'alcool. Quand j'arrêtais l'un, je reprenais l'autre et vice versa. Malgré tout, j'ai continué à travailler à temps partiel dans le domaine de la dyslexie. Je me suis formé à la dyslexie et j'accompagnais des enfants dyslexiques. J'ai donné cours aussi dans 2 universités à des futurs logopèdes concernant la dyslexie. Ensuite, j'ai fait vraiment une très très grosse crise maniaque en 2016 qui m'a vraiment précipité dans une incapacité de travail qui s'est transformée en une invalidité ultérieurement. Donc depuis 2016, je ne travaille plus. Beaucoup de choses se sont écroulées dans ma vie à ce moment-là, dont ma maman qui est tombée malade et qui est décédée 1 an après. Donc ça a été vraiment un très très grand choc pour moi. Et en mars 2018, j'ai consommé pour la première fois du crack. Je ne savais pas que c'était du crack à l'époque. Je ne savais même pas qu'on savait fumer de la cocaïne, parce que c'est un mélange de cocaïne et d'ammoniac qui est vraiment très fort. Moi, ça a été assez progressif, mais ça a été en tout cas très destructeur. C'est la dépendance qui a été la plus destructrice pour ma santé financière, bien entendu, mais aussi physique et mentale. J'ai consommé pendant environ 2 ans de manière ininterrompue, jusqu'à consommer plusieurs grammes par jour, sans avoir l'intention d'arrêter. Et il m'a fallu un an et demi pour pouvoir m'en sortir et arrêter définitivement. Pour pouvoir m'en sortir du crack, j'ai fait une très longue cure de désintoxication qui a duré 6 mois. J'ai passé 6 mois à l'hôpital. Ensuite, je suis allé dans un centre de jour dans lequel il y avait un atelier dont on devait choisir un thème, pour lequel on devait choisir un thème tous les 3 mois. Et le thème de ce trimestre était la père aidance. Et donc, il y a une père aidante qui avait fait la formation à l'Université de Mons, la formation en père aidance, santé mentale et précarité, qui est venue présenter un peu ce qu'elle faisait. Elle était père aidante bénévole et ça m'a beaucoup plu. La formation en père aidance est destinée à des personnes qui ont eu besoin de soins de santé mentale à un certain moment de leur vie et qui sont entre guillemets en rétablissement depuis entre guillemets au moins 2 ans.
La père aidance, PAIR, désigne l'accompagnement d'anciens bénéficiaires de services sociaux ou de soins de santé, le plus souvent sous forme de bénévolat. Ces pères aidants, qui ont cheminé vers leur établissement, mettent leur expérience au service des autres, en collaborant avec des équipes psychomédico-sociales, voire même en les intégrant en tant que thérapeutes. La père aidance n'est pas un concept neuf, bien qu'il ne soit pas encore très développé chez nous. Les tout premiers groupes de soutien entre pères aidants datent du 19e siècle. Ce sont eux qui ont donné naissance au mouvement des alcooliques anonymes en 1935. Si la père aidance est également basée sur le principe du soutien entre des personnes qui ont vécu les mêmes expériences, elle a surtout pour objectif d'aider le patient à reprendre le contrôle de sa vie et de son parcours thérapeutique. Le champ d'intervention de ces abstinents est large. Ils s'investissent dans les associations d'usagers, les groupes d'entraide ou aux côtés des soignants. Vincent a suivi une formation en père aidance santé mentale et précarité pendant 2 ans à l'université de Mons, à raison d'un jour par semaine. Il avait reçu l'accord du centre dans lequel il évoluait. Ensuite, il vit ses premières expériences en tant que père aidant.
Je pense que vraiment c'est une telle formation qui permet de prendre de la hauteur par rapport à son histoire. Par rapport à mon histoire, j'ai parlé en jeu. J'ai vraiment pris de la distance et de la hauteur par rapport à mon histoire parce que le premier exercice à faire dans cette formation, c'est le récit de vie que l'on présente à tous les pères aidants. Et on a souvent des récits de vie assez chaotiques. On transforme le vécu en expertise de vécu, en vécu expérientiel. Et la formation en père aidant tout en entier nous montre aussi quelles sont les formes de précarité. Il y a la précarité mentale, il y a la précarité sociale, il y a la précarité sociétale, il y a la précarité relationnelle. Enfin voilà, on voit toutes les formes de précarité. En fait, dans la formation, chaque semaine, ce sont des spécialistes différents qui interviennent. Des psychologues, des membres du gouvernement sont parfois intervenus sur des questions de concernant les aspects légaux, concernant la mise en observation, etc. Donc des notions de psychiatrie, des notions sur les différentes maladies, fragilités mentales. Ça permet de transformer la vie en vécu expérientiel et ça permet aussi par la collectivisation des expériences de transformer le vécu expérientiel en expertise expérientielle parce qu'on apprend plusieurs choses sur toutes les fragilités mentales, que ce soit des dépendances, que ce soit la schizophrénie, que ce soit la bipolarité, la dépression, les violences, l'inceste, les violences intrafamiliales, la précarité sociale, le sans-abrisme. Toutes ces fragilités étaient représentées dans la formation en père aidance. Concrètement, je travaille 2 jours et demi par semaine dans un lieu de lien et d'accueil. On dit abasseux dans le jargon, mais moi je préfère dire d'accueil inconditionnel. Lieu de lien et d'accueil inconditionnel qui est généralement destiné à... On souhaiterait une mixité, mais ce qu'on rencontre le plus dans notre public, c'est des personnes en souffrance psychique. Soit qui ont un lourd passé psychiatrique et qui sont... Il y a des personnes psychotiques qui viennent, qui délirent. Il y a des personnes qui ont eu un couac dans leur vie, qui ont perdu leur moitié, qui ont subi un deuil récemment, qui sont dépressives, qui ont besoin de compagnie. C'est vraiment un lieu de lien où on joue à des jeux de société, on vient prendre une tasse de café. Et donc l'équipe est formée par un psychiatre en chef, 2 psychologues cliniciens, une assistante sociale, 2 éducateurs et éducatrices spécialisées et 3 pères aidants. 3 pères aidants dont 2 bénévoles et 1 qui est salariée à mi-temps. Évidemment, il y a des affinités électives qui se créent avec des personnes qui souffrent de toxicomanie également. Les patients, les usagers, les citoyens vont beaucoup plus aisément se confier à un père aidant qui est passé par les mêmes choses qu'à quelqu'un qui fait partie du corps médical, pardon.